J'ai fêté 54 ans vendredi. Et puis... Et du coup, je me suis rendu compte à quel point la retraite est proche. Non, c'était bizarre parce que l'année dernière, le 24 février, c'est mon anniversaire. Et puis, Poutine a bombardé l'Ukraine le même jour. Et donc, les gens commentaient plus Poutine que mon anniversaire. J'étais tellement jaloux. Et là, le 24 février était en train de s'approcher et j'apprends, juste un jour avant, qu'il y a cette histoire. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon anniversaire? Il faut que je change le jour d'anniversaire. Ça m'a fait... C'est bon, parce que je trouve qu'on est tellement triste. Ça, c'est bien quand même de changer un peu d'atmosphère. Hein. Il ne faut pas que cette situation politique nous pèse tellement. J'aimerais donner un peu plus d'espoir ce matin. Je viens d'une famille où le papa était policier de service secret pendant des années jusqu'à sa retraite. Ça, c'était une bonne chose qu'il prenne la retraite, parce que... Il garde beaucoup de choses des agents secrets. Et je me souviens un jour des larmes de papa, quand il revenait, il ne partageait jamais, il ne disait jamais ce qu'il faisait. Pour l'anecdote, il est venu nous visiter en 2017. Pour moi, c'était la première fois qu'il venait en Tunisie. Je pensais que c'était ça, la première fois. Et je lui expliquais tout en Tunisie, je faisais des tours, je lui expliquais. Et puis on arrive à l'avenue Bourguiba, on marchait ensemble, et puis il dit « Ah, ça a beaucoup changé ici ». Je lui dis, mais comment ça a beaucoup changé? Tu étais ici? Il dit, ah non, c'était dans ma vie passée. Donc j'ai compris qu'il était ici. Nous, on sait toujours qu'il allait visiter grand-mère au village, mais souvent, ce n'était pas ça. C'était autre chose. Papa est revenu avec des larmes à la maison. Moi, j'étais très jeune. Il y avait la guerre au Liban. Et les Libanais sont arrivés au Congo, beaucoup de Libanais. Et puis, ils commençaient à faire des affaires et ils commençaient à gagner beaucoup d'argent. Et ça générait aussi de la jalousie auprès des Congolais. Et quand ça a généré de la jalousie, il y avait beaucoup de... Il y avait des termes racistes qui étaient sortis et les Libanais étaient en danger au Congo. Et ils s'est cachés complètement. Et papa, comme il contrôlait les services d'immigration pour les cartes de séjour et tout ça, c'était lui qui gérait un peu ça à l'époque, pour les étrangers, il y avait plusieurs qui avaient des cartes de séjour via son service. Donc il connaissait certains, on les connaissait directement. Et il est revenu à la maison et il était en pleurs parce que ses amis ne pouvaient pas sortir de leur maison. Et là, il y a quelques jours, j'ai commencé à penser aux policiers, et je me disais, là, on a prié pour tout le monde, mais très rarement on va prier pour les policiers. Et on ne sait pas ce qu'ils ressentent, les policiers, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils doivent poser comme acte. En tant que fils d'un ancien policier, je vous demande pardon au nom de la police, mais en même temps, je vous dis... Priez pour les policiers. D'ailleurs, mon père a une histoire qu'il raconte chaque fois. Il dit, on dit que les femmes ont vu Jésus ressuscité. C'est elles qui ont dit Jésus ressuscité. Il dit, non, les premiers témoins, c'est nous, les policiers, on gardait la tombe. Et quand ça tremblait, on a fui. Et puis on a dit à nos épouses, ça barde là-bas dans la tombe de Jésus. Et c'est intéressant de voir ça. Mais je pense que la peur est là. Et quand je suis parti à Moscou comme étudiant, c'était le changement... Gorbatchev quittait les pouvoirs et Poutine arrivait, Yeltsin arrivait au pouvoir. Et en ce moment-là, il y a eu un grand changement. C'est-à-dire, les soviétiques découvraient le monde extérieur. Ils découvraient que le dollar était plus élevé que le rouble. Et les étudiants étrangers que nous étions devenus la cible des attaques parce qu'ils ont compris qu'avec un dollar, on pouvait faire beaucoup de choses. Et nous, on avait des dollars. Avec 40 dollars, on pouvait vivre toute l'année en Russie, en tant qu'étudiant à l'époque. Et ça, c'était intéressant pour nous, hein, d'avoir des dollars. Mais c'était dangereux maintenant de sortir dans la ville parce qu'il y avait on était dans le risque. Et nous étions là, en ce moment-là, en tant qu'étudiants étrangers, on était tous ensemble. Les Tunisiens, presque tous les Tunisiens s'appelaient Faouzi, c'était bizarre. Et il y avait quatre qui s'appelaient Faouzi. Et puis, on était ensemble et on avait peur, on sortait par groupe de quatre. Et en ces jours-là, j'ai compris la peur qu'avaient les Libanais au Congo quand papa y parlait. Souvent, on ne comprend pas. Quand Jésus-Christ est mort, ses disciples étaient cachés, ils avaient peur de sortir. Et pourtant, c'était des gens qui devaient être à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle. Mais la peur des disciples faisait qu'ils ne pouvaient pas sortir. Je ne sais pas s'ils étaient tellement en danger, mais ils avaient peur. Mais les jours de la Pentecôte, ils sont sortis et ils ont annoncé la bonne nouvelle. J'ai dit tout cela pour dire qu'il y a de la peur parmi les subsahariens que nous sommes. Mais en même temps, il y a des choses extraordinaires que personnellement je suis en train de vivre et que je n'ai jamais vécu. Hier, on était à la police avec ma fille. Les policiers qui nous ont accueillis commençaient à parler et puis ils me disaient « Tu es dans ton pays, mais il y a quand même un problème avec certains. Mais toi, tu es ici, toi, tu es fils du pays. » Et ils me parlaient de ça. J'étais dans un magasin Carrefour. Il y a une dame qui me voyait à la caisse en train de payer. Il n'y avait presque pas de subsahariens à Carrefour ce jour-là. J'étais parmi les rares, les oiseaux rares dans le magasin Carrefour. Et j'étais en train de payer. Il y a une dame qui m'attendait et qui retardait de prendre ses affaires pour me dire pardon pour ce qui se passe. Nous sommes désolés pour ce qui se passe. Elle ne me connaît pas. Elle m'a suivi. Vous savez, en Tunisie, un homme qui ne connaît pas une femme et la femme commence à lui parler, c'est comme si la femme draguait. Est-ce que vous voyez un peu dans la culture, ça ne se passe pas. Mais cette femme a bravé la culture parce qu'elle voulait demander pardon au nom des Tunisiens. Et ça, ça m'a beaucoup frappé. L'épicier en bas de chez nous, je pars pour acheter du lait, souvent c'est un litre de lait, hein. Vous savez, il y a crise de lait, hein. Ça il faut le savoir. Je dis, est-ce que vous avez du lait? Il dit, oui, j'ai du lait. Il m'a dit, combien de lait tu veux? Je dis, les maximums que vous pouvez donner. Il a dit, mais prenez. Prenez, vous êtes chez vous, prenez. Et il m'a sorti 6 laits, il m'a sorti le deuxième. J'ai dit non, donnez-moi juste 6 laits. Parce que j'ai compris que ça, c'était plutôt le côté où les Tunisiens sont très mal à l'aise dans cette situation. Et ça aussi, deuxième personne pour qui il faut prier. Troisième personne pour qui il faut prier, c'est le président de la République. C'est pas pour parler de mon père, mais parce que parfois, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Mon père, une fois, m'a dit, j'ai vu Mobutu, c'était les dictateurs zaïrois que tout le monde était content de chasser. Donc mon père travaillait avec Mobutu. Pardon pour les Congolais, mon père a travaillé avec Mobutu. J'ai mangé l'argent de Mobutu pendant que j'étais jeune. C'est pas moi, c'est mon père. Il a vu Mobutu pleurer parce qu'il ne sait pas comment réagir par rapport à la situation. Parfois, on ne sait pas comment les présidents souffrent. Et il nous faut prier pour les présidents de la Tunisie. S'il est mal entouré, il prendra les mauvaises décisions. S'il est bien entouré, il prendra des bonnes décisions. Et c'est aussi notre rôle de le faire. Je voulais juste dire ces choses pour que nous puissions faire la part des choses. En même temps, il y a beaucoup de migrants qui sont là sans papier. Et de l'autre côté, on a beaucoup de gens qui ont leurs papiers en ordre, mais qui ont peur de sortir. Il nous faut prier pour que la peur tombe et qu'il y ait une rencontre entre les personnes. Et ça, c'est très important. Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas voulu changer ma prédication. J'ai dit, je resterai sur les textes que nous faisons. Mais je voulais quand même le dire au début, parce que c'est très important, en tant que pasteur subsaharien et aussi faisant partie de ceux qui sont peut-être la cible ou pas de l'amour, hein, de beaucoup de Tunisiens. Franchement, je suis triste parce que je vois les Tunisiens tristes de me voir. Et ils étaient presque en train de vouloir me demander pardon. Ma fille, elle a vécu aussi, là où elle a vu le stage, elle part prendre le café. Elle dit, vous voulez manger? Et puis elle dit, non, je n'ai pas faim. Et puis les autres pensaient qu'elle ne mange pas parce qu'elle était tellement triste, alors que non, elle n'avait pas faim. Et effectivement, mais les Tunisiens souffrent avec ça. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu depuis quelques semaines. La montre, ça marche? OK. J'ai 10 minutes pour la prédication. Pour un Congolais, c'est vraiment très difficile. Hein, mais... nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu... nous sommes en train de le survoler. En survolant l'évangile de Matthieu, nous l'avons dit dès le départ, c'est que l'évangile de Matthieu démarre avec les chapitres premiers. Et dans les chapitres premiers, ok, je dois aller lentement pour Stéphanie. Pourquoi tu ne comprends pas mon français qui est très simple? Dans l'évangile de Matthieu, qui démarre avec les chapitres premiers au verset 23, l'ange dit à Joseph, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples, allez dans le monde, faites des nations les disciples, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, avec vous, Dieu avec nous. Matthieu démarre avec Dieu avec nous et finit avec Dieu avec nous. Et dans tout l'évangile de Matthieu, c'est cette trame-là que nous sommes en train de suivre. Et dans cette trame que nous sommes en train de suivre, nous avons voulu prendre juste les discours de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 discours de Jésus. Donc nous avons pris les 5 discours, et dans ces 5 discours, c'est ça qui fait nos prédications que nous faisons jusqu'à Pâques. Donc on a démarré l'année dernière, et cette année nous continuons. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, on a fait, après avoir parlé d'abord du chapitre 1er avec les différentes personnes qu'il y a dans la liste de la généalogie de Jésus, ces personnes qui sont aussi avec des cas, il y a des cas sociaux hein, dans la généalogie de Jésus, il y a des rois, il y a des personnes difficiles, il y a des prostituées, il y a plein de choses, des gens différents, mais Dieu est avec toutes ces personnes différentes qu'il appelle à lui. Et puis nous avons fait un chapitre 5 au chapitre 7, ce que nous avons appelé la loi du royaume, et que Ayman a lu tout à l'heure une partie. Vous avez appris qu'il a été dit que tu tueras ton prochain. Moi, je vous ai dit, tu aimes vos ennemis. Vous avez appris que tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec l'idée de coucher avec elle a commis de l'adultère. Jésus est en train d'amener quelque chose, pas de nouveau, mais il relève les niveaux. Il relève les niveaux de la compréhension de ce que c'est la loi. C'est pas que parce que j'ai fait telle chose et c'est bon, Jésus relève le niveau. Et donc nous avons fait cette série de prédications-là. Et puis après cette série de prédications, nous avons pris Matthieu 10, où c'est la proclamation du royaume. Jésus envoie les disciples vers les nations pour annoncer la bonne nouvelle. Cette recommandation, il va les refaire à la fin, après sa résurrection, il va encore les envoyer. Et là, maintenant, nous sommes au chapitre 13 de Matthieu, où nous sommes en train de voir l'histoire du royaume racontée en paraboles. Ce sont les différentes paraboles qui sont racontées. Après, nous verrons Matthieu 18, qui est un peu comme comment on vit en communauté dans ces royaumes-là que Jésus annonce. Ces royaumes que Jésus annonce est un royaume du pardon. Et comment est-ce que le pardon est réel dans ce royaume? Donc ça, c'est Matthieu 18 que nous verrons plus tard. Et puis après, il y a aussi Matthieu 23 et 25 où on parle du retour de Jésus et de la fin des temps. Ça, si Christ ne revient pas, si je ne meurs pas, si vous ne mourrez pas, nous pourrions encore l'étudier par la suite. Et donc, tous ces discours, Jésus est en train de vider le sens que les Juifs de l'époque où ils vivaient avaient du royaume. Parce que dans l'idée des Juifs qui vivaient en ce moment-là, pour eux, quand le Messie allait venir, quand il vient, il va établir la royauté de David, et les Romains vont partir, et tout va changer. Mais si vous avez déjà lu le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus va annoncer son départ, et il dit qu'il va revenir, il dit « Ah, c'est en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. » Ils étaient en attente d'un royaume terrestre, qu'il bouleversera tout, où on va renverser la table. Jésus devait renverser la table. Mais non, Jésus est venu annoncer un autre royaume qui est différent du royaume qu'eux, ils sont en train d'attendre. Et ce sont ces royaumes-là, c'est ce royaume-là que nous sommes en train de voir dans Matthieu 13. Et dans Matthieu 13, nous, dans les paraboles du royaume, on a commencé avec la parabole du semeur, diapo suivant, pardon. Et dès le verset premier, on nous dit, en ces jours-là, Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. En une seule journée, il va raconter 7 paraboles. 7 paraboles concernant le royaume. Il va le raconter. Désolé, j'ai mis en français, en anglais et en arabe, sachant que je parle vite. Mais en faisant avec mon ordinateur, parfois, ça changeait les mots en arabe. Je les remettais en place, mais si ça ne marche pas, c'est une Bible falsifiée hein, qui sera là. Mais prenez la vôtre qui n'est pas falsifiée. Hein. Donc c'est intéressant. Et en anglais, c'est pareil, je crois, quand je faisais des copier-coller. Hein. Jésus raconte les histoires en paraboles. Et il y a 7 paraboles. D'abord, la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, il va montrer 4 terrains. Et dans cette parabole, il va déjà lancer qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, la parole de Dieu est annoncée. La parole est annoncée. Et dans les 4 terrains, il y a un terrain qui est, je ne refais pas la prédication numérique, vous pourrez l'écouter sur le site de l'Église, il y a la parole qui est tombée, les grains qui sont tombés sur les chemins. Moi, j'ai dit, le semeur, il est un peu maladroit. Hein, le semeur en question. Personne ne jetterait sur le chemin le truc. Mais c'est intéressant. Mais ça veut dire que tout le monde doit entendre. Peu importe les terrains, on doit entendre la parole. Et vous allez voir que les verbes qui reviennent à chaque fois dans la parabole du semeur, c'est le verbe entendre. C'est-à-dire dans les quatre terrains que Émeric nous a présentés il y a deux dimanches, dans les quatre terrains, tout le monde entend. Mais la manière de les recevoir est différente. Les premiers terrains dans la rue, eux, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. On peut entendre, mais si on ne comprend pas, il n'y aura pas de fruit parce que les diables, les frères l'ont dit il y a deux dimanches, ils volent et ils enlèvent tout et on est vide. Il nous faut, en lisant la parole de Dieu, aussi apprendre, demander au Seigneur, j'aimerais comprendre. Et puis, il y a un deuxième terrain qui était là, qui est le terrain où la parole descend, on l'accepte avec joie, et quand les difficultés arrivent, la persécution à cause de la parole arrive, on trébuche, on abandonne. On est content, alléluia, c'est super, c'était bien. Et puis, tu sors, tu n'as pas de pain à manger, oh là là, qu'est-ce qu'il y a, Dieu, il m'a abandonné. Tu sors et puis on t'apprend que tu as des cancers, oh là là, Dieu, il m'a abandonné. Donc, il y a toutes ces choses. Et puis, le troisième terrain est aussi la personne qui entend, tout le monde entend, hein, entend, mais les préoccupations de ce monde, les soucis de la vie, et j'aime bien l'autre, l'attrait trompeur des richesses de ce monde. On veut à tout prix gagner. Moi, je pars à la retraite bientôt, je commence à penser à la maison. Je dis, mais où est-ce que moi, je n'ai pas de maison. Il faut que je puisse avoir une maison. Et ça commence à être un grand souci. Je dis à ma femme, je ne vais pas avoir des dettes avec qui que ce soit. Je vais juste garder de l'argent pour trouver au moins une chambre où je peux dormir. Je veux pas de problème. Je dis à ma femme comme ça. Elle me dit, qu'est-ce que... Je dis, si quelqu'un veut de l'argent avec moi, qu'il me demande maintenant, parce que moi, je ne veux plus rien, plus avoir de dettes avec les gens. Donc, mais ça devient un souci freddiel, hein, un souci de Freddy. Hein. Ça devient un souci et puis du coup, Freddy n'entend plus la parole à cause de la retraite. Hein. Ça, c'est pas bien. Donc, et puis, il y a un dernier terrain, celui qui entend la parole et la comprend. Pour comprendre, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Si vous n'avez pas entendu ça, allez réentendre les prédications d'Émeric. Le Saint-Esprit fait le travail dans notre cœur pour que notre terrain soit un terrain qu'il faut. Et puis le dimanche dernier, nous avons entendu la mauvaise herbe. Dans cette parabole de la mauvaise herbe, c'est que les ennemis, l'ennemi vient, le semeur il a sémé du bon grain, l'ennemi il vient, il sème les mauvais, et du coup, l'herbe, la bonne herbe monte, et la mauvaise aussi monte, et les serviteurs ils disent, Seigneur, tu veux qu'on arrache la mauvaise herbe? Et lui il dit, non, de peur que si vous l'arrachez, la mauvaise herbe, vous risquez de déraciner aussi les blés. Les mâles et les biens, les semeurs, donc les maîtres, Jésus lui-même, parce qu'il explique la parabole plus loin, il laisse que ça puisse cohabiter. C'est choquant de voir ça. Et voilà pourquoi les serviteurs, qui sont les disciples, ils disent... Est-ce que tu veux qu'on arrache? Il dit non. Laissez les moissonneurs, donc c'est les autres, et les moissonneurs, lui-même, il dit que c'est les anges, plus loin, dans l'explication, si vous n'avez pas entendu ça, la prédication de dimanche dernier. Et les anges vont arracher à la fin des temps et jetteront dans le feu les mauvaises herbes. Mais et on gardera les bons grains. Et là, on arrive à la troisième parabole, qui est très courte, Matthieu 13, versets 31 à 33. Je vais les lire dans la version second 21. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever la pâte. Jésus propose une nouvelle parabole. Le royaume des cieux est semblable à. La parabole d'avant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème. Et là, le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a sémée. La graine de moutarde est tout petit. Les diapos qui suivent, ça c'est plusieurs graines de moutarde. Donc la graine de moutarde, c'est un petit truc comme ça qu'un homme, il prend et il sème. Ce qui est intéressant dans cette parabole, Jésus précise en disant au diapo suivant que c'est la plus petite de toutes les semences. Il fallait que Camargo ne soit pas là ce matin, comme ça j'allais dire ce que je voulais dire. Personne n'allait me contredire, mais comme il est là, je vais faire attention à ce que je vais dire. Là, parce que les agronomes, ils sont toujours très méticuleux sur les choses. Hein. Donc, Jésus, il dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Bon, j'ai regardé sur Internet, on m'a dit que non, ce n'est pas la plus petite, il y a d'autres plus petites. Est-ce que Jésus a tort? N'arrive. Hein? Je ne sais pas. Hein? Donc, mais c'est parmi les plus petites des semences. Et l'homme, il sème, on peut même le fouler au pied, on peut même marcher dessus, on ne peut même pas le voir. Si je le prenais, ce n'est pas possible que vous puissiez le voir. C'est tout petit. Impossible de voir. Mais, dit Jésus, quand elle pousse, elle est plus grande que les légumes, elle devient un arbre, et de sorte que les oiseaux du ciel viennent y habiter. Là, il y a quelque chose qui m'intrigue. Jésus ne raconte pas par quelle manière ou quelle thérapeutique que la graine de moutarde grandit sous terre, comment est-ce que ça travaille. Il ne raconte pas. Il ne raconte pas non plus comment est-ce que ça pousse. Ça intéresse les Camargo. Mais Jésus, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Jésus, c'est le début et la fin de la chose. Entre les deux, il nous prive d'explication. Il nous dit juste, mais quand ça pousse, ça devient plus grand que le légume et ça devient un arbre très fort. Vous voyez ces graines de moutarde? Vous voyez cet arbre, mais vous ne voyez pas ce qui est entre les deux. Et il nous laisse totalement dans cette ignorance, Jésus. Et je pense que c'est une ignorance voulue par Jésus. Parce que le travail qui est fait entre la graine de moutarde et l'arbre appartient à Dieu. Non, vous ne m'avez pas entendu parce que j'avais noté que vous allez dire Amen quand j'allais dire ça. Donc, entre les graines de moutarde de la petite foi et les fruits que ça donne, Dieu fait son travail. Et ce travail-là, nous l'ignorons totalement. Nous ne pouvons pas le maîtriser. Et il est en train de dire ça à des hommes qu'il va envoyer encore en mission. À des hommes qui sont revenus des missions. À des hommes qui n'arrivent même pas à comprendre les paraboles. D'ailleurs, c'est intéressant dans Matthieu, comment il fait, il explique la parabole, après il reprend une parabole, il explique. Luc, lui, il met tout ensemble, il leur explique tout ça au même moment. Je ne sais pas si Matthieu, c'est un projet pédagogique qu'il a fait comme ça, je ne sais pas, mais c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et ça devient un arbre. Et quel arbre? Arbre que les oiseaux viennent pour s'y abriter. Le temps me manquerait de faire les liens avec Daniel 4, où cet arbre, cet arbuste du grain de moutarde est une image du repos que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. Une petite foi qui devient un abri, un lieu de repos. Mes amis, parfois, dans ce travail de l'annonce de la parole, dans ce travail du royaume de Dieu, que nous sommes sur ce chemin, on ne peut pas savoir qu'est-ce que Dieu produit plus tard. Oh, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Une fois, j'ai entendu quelqu'un raconter son témoignage. Puis moi, je me disais, oh, c'est génial, lui, vraiment, il s'est converti. C'est extraordinaire. Moi, j'ai fait un travail formidable. C'est moi qui lui ai annoncé l'évangile. Vraiment, il a été touché par moi. Et les types, ils racontent son témoignage. Je n'étais même pas dans son témoignage. Et pourtant, moi, j'ai fait des études bibliques avec lui. Moi, j'ai fait plein de choses avec lui. Quel ingrat! Et ce type, non, il n'est pas ingrat. C'est que le travail qui a été fait, les grains de moutarde, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait posé. Et moi, je ne fais que partie du chemin de ce que Jésus ne raconte pas. Et moi, j'ai voulu que ça soit dans son témoignage. Et je n'y suis pas parce que je fais partie de ce travail que Dieu a fait. Mais lui, il raconte l'histoire. J'étais là en train de m'asseoir et puis quelqu'un est venu m'a dit, toi, jusqu'à quand tu continueras à vivre dans les péchés? Et j'ai oublié ça depuis des années. Et un jour, je me suis rappelé, j'étais dans une réunion et on a parlé de Jésus. Et puis j'ai entendu. Et puis, donc dans cette réunion, on a parlé de Jésus, c'est moi. Et moi, j'étais là. Il fallait quand même, par reconnaissance, dire la réunion où Freddy était en train de dire ça, j'ai entendu, mais il n'a pas dit. Mon orgueil a pris un coup. Et c'est intéressant, parce que Dieu, il est au travail de ce que cette personne-là avait dit. Vous ne savez pas ce que vous faites comme travail. Vous n'avez pas dans. On a prié aujourd'hui pour plusieurs sujets. Est-ce que vous savez que Dieu, il est au travail? Parce qu'il y a des gens qui ont confiance que Dieu, il fait son boulot. Ça, c'est intéressant à voir. Puis il finit avec cette parabole en disant l'autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesure de farine pour faire lever la pâte. J'ai fait du pain à la maison, parfois, avec la machine. Il ne faut pas penser que je suis spécialiste du pain, mais c'est la machine. Mais on met un peu de levain. Et quand on met juste un tout petit peu de levain, la pâte qu'on a fait, on laisse la pâte. Et puis après, quand on arrive, ça a pris de l'ampleur. Et on peut même faire beaucoup plus de pain ou beaucoup plus de croissants. Mais ces levains-là, on ne peut plus l'avoir. On ne sait même pas que ça existe. La personne qui sait que le levain existe dans cette pâte, c'est la personne qui l'a mise. Mais c'est invisible. Et le royaume des cieux ressemble à ça. Vous ne savez pas, un peu d'amour que vous avez donné, un peu de temps de prière, un peu de compassion, un peu de, je ne sais pas, un peu de quelque chose du royaume que vous avez donné, vous ne savez pas, c'est du levain qui fait monter de la pâte. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Nous avons besoin d'un royaume en toute puissance, un royaume visible, un royaume qui est conquérant. Mais le royaume que Jésus est en train d'annoncer, c'est un royaume presque invisible, qu'on ne voit pas, mais on ne voit que du fruit après. Dans les travails de ce royaume-là, on ne voit pas. Il parle à qui? Il parle à des disciples qui reviennent d'une mission et qui a peut-être été difficile, ils ont été peut-être rejetés. Mais Dieu est au travail. Oh, je vais me permettre d'être un provocateur ce matin. Je vois Esteban. Je vois. Je sais pas Corinne vient de ma tête alors que c'est pas Corinne qui. Florence. Je vois Sylvie. Je vois Émeric. Je sais qu'ils sont à l'école Calaline. Parfois des choses, des petites semences, des graines, des moutardes. Ça porte du fruit. Je vois Ben. Je vois Stéphanie. Je vois Taïmen. Je sais que vous êtes dans l'agriculture avec des gens qui sont peut-être pas chrétiens. Mais les grains de moutarde que vous mettez. Je vois Paul, je vois. Je vous vois tous dans ce que vous faites. Je vois Manel dans son bureau, ou entouré que de non-chrétiens. Les grains de moutarde que tu es en train de faire, tu ne vois pas de fruit de cela. Mais ça portera du fruit, mes amis. Je ne suis pas en train d'être propagandiste ou. En train de dire, ah ouais, tout ira bien. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire, les petites choses que nous posons, les petits actes que nous posons du royaume, portent du grand fruit, dit le Seigneur. Mais est-ce que nous, et c'est là que je vais finir, est-ce que nous, vous et moi, nous avons confiance que le Seigneur est à l'œuvre? Je repose encore ma question. Est-ce que vous et moi, nous avons confiance que le Seigneur est à l'œuvre? Parfois, non, le Seigneur est à l'œuvre. Parce que les disciples, ils étaient 12. Et là, dans cette salle, on n'est pas 12. Ils étaient 12 Galiléens. Et là, dans cette salle, il n'y a pas de Galiléens. Si on commence à citer les nombres des pays qu'il y a ici, sans m'hasarder, il y a au moins 12 pays. Rien que là. Les Américains sont sauvés, alléluia, heureusement. Même les Français sont sauvés, il y en a même des pasteurs. Vous imaginez ça, les Néerlandais, qui pouvait imaginer qu'un Néerlandais devienne chrétien? Les Canadiens sont sauvés. C'est pas possible. Les Brésiliens, qui a amené l'évangile au Brésil? Même les Alsaciens sont sauvés parce qu'ils ne sont pas en France, ils sont entre la France et les trucs. Ils sont sauvés. Les Tunisiens. Avec ce qui s'est passé cette semaine, ils sont sauvés parmi eux. L'Argentine, à part le football, mais ils sont juste sauvés. Les Brésiliens, oh, ils sont derrière là-bas. Les Burkinabés, les hommes intègres, ils sont sauvés du Burkina. Les Congolais, heureusement aussi, il y en a. Les Gabonais, ils sont sauvés. Les Malgaches sont sauvés. Je cherche là. Ah, le Congo-Brazza, oh, pardon. Hein. Les Congo-Brazza, ils sont sauvés. Même les Boliviens sont sauvés. Même les Boliviens sont sauvés. Est-ce que vous voyez toutes les Camerounais, j'allais oublier, derrière là-bas, les Camerounais sont sauvés. Les Britanniques. Mais c'est pas possible. La Corée du Sud, hein? Même la Corée du Sud sont sauvés. Mais vous imaginez tout ça? Les grains de moutarde qui a été semé. Pierre, Paul, Jacques, Jean et tout ça, ils sont morts sans savoir que un jour l'évangile arriverait au fin fond de la terre. Les grains de moutarde. C'est ça les royaumes qui bousculent. Ce n'est pas les petits royaumes que les disciples, les 12, rêvaient d'avoir avec Jésus. Mais c'est un grand royaume qui rassemble les chrétiens du monde à la chanter. Et qui chanteront Christ est roi. C'est lui notre roi. J'ai presque envie de pleurer. C'est inimaginable. Il n'y aura pas la famille de Dieu qui va venir pour vouloir demander pardon de ce qui se passe dans le pays parce qu'il y a eu des paroles racistes et nous sommes tristes, nous voulons vous montrer qu'on est ensemble. Non, il n'y aura même plus ça. Parce qu'on sera ensemble devant lui, en train de louer le Seigneur. Les grains de moutarde. Le royaume de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que le Seigneur nous encourage par cette parole. Que le Seigneur nous donne à être des hommes et des femmes qui lui font confiance. Même quand nous n'imaginons pas qu'il est en train de travailler, le Seigneur est en train de travailler. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu ne viens pas avec des fanfares, des chars, avec ton royaume, mais tu viens simplement comme tu es venu, comme un bébé dans ce monde, comme un roi qui finit à la croix, comme un roi qui ressuscite et qui pouvait bien montrer à tout le monde qu'il est ressuscité, mais il montre juste à 500 personnes, comme un roi qui travaille dans le cœur des gens, et qui transforme des vies et gagne du terrain.
Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui te dire, nous voulons faire partie de ce royaume-là, être dans ce royaume-là qui se répand. Encourage chacun de nous, Seigneur. Je sais que peut-être qu'il y a beaucoup qui vivent dans un temps difficile dans leur vie et qu'ils ont besoin d'un roi triomphant. Mais Seigneur, que tu puisses montrer à chacun de nous que dans la petitesse de ce que toi tu nous donnes, tu es présent, comme tu le dis dans Matthieu. Encourage-nous cette semaine, raccompagne chacun de nous dans nos chemins, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte et je vous invite à vous lever pour clôturer ces temps de culte. Je prends les paroles de la fin dans le livre de Hébreux, chapitre 13, et je vais lire juste les versets 20 et 21. Hébreux, chapitre 13, les versets 20 et 21. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité le Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour ceux qui seront là.